sais pas, je mets la musique en sourdine tout bas. Trop bête, on ne sait pas s'il s'en est, si j'en attendais pas cette fois. En attendant, c'est pas ce matin-là. Le soir, le matin, un hiver, un aube, un printemps qu'il choisira. Bien, je n'en sais rien. Je mets de lumière les nuits au bord des chemins. En attendant, ses bras.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme quasiment tous les mercredis matins. Bonjour. Aujourd'hui, d'abord quelques annonces et nous allons faire un petit retour sur l'histoire de l'antipsychiatrie. Voilà, en gros, c'est le sommaire de l'émission. Alors, le 11 octobre, Matt Pryde. Matt Pryde, le 11 octobre. Alors, voici le tract qu'on peut aussi lire sur www.mad-pride-2025.fr. Pour une société humaine soutenable, le soin comme la société doivent être construits à partir de ce que nous sommes tous, toutes, et non nous insérer au forceps dans un système social et économique pathogène. Nous, les fous folles, nous sommes l'incarnation humaine du désordre psychologique que crée ce système d'oppression. Et notre rôle n'est pas de tenter désespérément de se conformer à ce moule qui nie et nous détruit du fait que de nos différences de fonctionnement, Nous sommes la preuve vivante que ce monde n'est pas soutenable pour la vie et l'humain tout comme pour l'environnement. Inventons un monde soutenable avec celles et ceux qui ne peuvent pas vivre autrement que dans un modèle de société où la part d'humanité et la spécificité de chacun peut s'exprimer. Nous revendiquons, parce que les violences psychiatriques et le tout médicament ne sont pas conciliables avec le respect des droits humains, abolition des traitements forcés, contention physique et chimique, privation de liberté, hospitalisation forcée, conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU. Et parce qu'aucun « bien-être » entre guillemets ou « santé mentale » ne sera jamais possible en vivant dans l'insécurité constante quand un autre survit. Personne à la rue, logement garanti pour tous, toutes. Personne sans ressources, moyens de subsistance garantis pour tous et toutes. Nous luttons contre toute forme de discrimination et d'oppression. Dénaturalisons les violences sociales, racisme, sexisme, sanisme, psychophobie, violence de classe, LGBT plus phobie, validisme, agisme, etc. Vivre dans cette société est psychologiquement nocif. Nous ne devons pas chercher à nous adapter à n'importe quel degré de violence sociale. C'est le fonctionnement collectif que nous devons adapter aux besoins et à l'épanouissement de tous et toutes. Voilà, c'était donc l'appel à venir et à participer à la Mad Pride 2025. La Mad Pride 2025 qui va donc avoir lieu le 11 octobre. Et on passe maintenant à... Allez, je fais une autre annonce. Kolifata. Alors, la Kolifata, j'avais... trouver le document, et voilà, à Gennevilliers, cinéma, parole et santé mentale collective, le mardi 16 septembre 2025 à 17h30, le théâtre de Gennevilliers, T2G, ouvre ses portes à un événement exceptionnel, une soirée avec la Kolifata pour penser et célébrer la manière dont la santé mentale peut se réinventer à partir du collectif, du populaire et de la proximité. Alors oui, je fais une petite parenthèse. Bon, nous, le terme de santé mentale correspond encore une fois à une sorte de un modèle de société qui n'est pas exactement le nôtre. Il s'agit de la santé mentale dans une société. Du marché, d'une économie de marché, ça reste encore ça. Hein, donc, le terme de santé mentale, bon, moi, on n'est pas trop chaud, quoi. Voilà, je ferme ma parenthèse. Alors, donc, ce rendez-vous hein, du 16 septembre 2025, ce sera un ciné-débat. Hein, l'association Kolifata et le T2G invitent à un ciné-débat avec la projection du film de Carlos Larondo qui raconte l'histoire de Radio La Kolifata, la première radio au monde née dans un hôpital psychiatrique, l'hôpital Borda de Buenos Aires, et aujourd'hui référence internationale en santé mentale, communication et culture. Le film invite le public à découvrir cette aventure pionnière où la radio fait le lien entre l'hôpital et la société et où la parole partagée devient un outil de soins et de transformation. La Kolifata n'est pas seulement un espace d'expression, c'est un dispositif clinique et social qui s'appuie sur un cadre de reconnaissance des vulnérabilités et des ressources de chaque participant. Il travaille au développement de stratégies en réseau où l'entourage proche et social accompagne et crée les conditions du rétablissement. Elle articule ainsi santé, culture et citoyenneté dans un même mouvement. Bon, alors voilà. Santé, culture, citoyenneté, c'est pas non plus des mots qui nous sont très familiers dans notre vocabulaire de militants entonnoiristes. Voilà. La soirée se déroulera en présence du réalisateur Carlos Larondo, de Mathieu Bellassène et d'Alfredo Oliveira, fondateur de la Colifata et initiateur de plusieurs projets radiophoniques en France, dont Radio Citron, allez l'en retrouver, Radio Mobile, initiative de l'équipe précarité du GHU, et la Radio Sans Nom, qui fête ses 10 ans et prolonge l'esprit Colifato sur le territoire français. Cette rencontre sera aussi l'occasion d'un dialogue avec Mathieu Bellassène, l'un des initiateurs de la psychiatrie populaire de proximité, mouvement né à Gennevilliers et qui propose une psychiatrie ancrée dans le quartier, accessible, citoyenne et solidaire. Cette approche vise à replacer la santé mentale au cœur de la vie sociale, etc. etc. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, c'est le 16 septembre 2025 à 17h30 au théâtre de Gennevilliers. Voilà, et bien c'est tout. Et maintenant on passe directement alors qu'est-ce que c'est, on va parler d'antipsychiatrie. Eh bien oui, je vais vous proposer de lire peut-être pas intégralement, mais une grande partie d'un travail universitaire anonyme publié sur l'internet sous le titre « Que reste-t-il de l'antipsychiatrie des années 60 ?» Cet extrait de thèse ou d'ouvrage retrace l'histoire des différents mouvements rubriqués sous l'étiquette antipsychiatrique des années 1960 et 1970. C'était pour l'essentiel des courants de professionnels de la psychiatrie. L'auteur conclut sur le fait que s'est développé depuis une quinzaine d'années en France, avec retard par rapport aux pays de culture anglo-saxonne, une antipsychiatrie des personnes concernées. Des personnes elles-mêmes. Voilà, cet extrait, c'est une petite introduction, est extrait écrite par André Bitton du CRPA, que je vous ai lu. Que reste-t-il de l'antipsychiatrie des années 60 ? D'abord, l'introduction. Donc, l'auteur parle parfois à la première personne. L'antipsychiatrie est un ensemble de courants anciens qui prend ses racines dans l'anti-aliénisme au XIXe siècle, à une époque où la psychiatrie naissante rencontrait déjà des résistances quant à ses pratiques et sa légitimité. Pourtant, c'est à partir des années 60 que cette critique radicale acquiert une certaine notoriété et un certain poids qui pèseront sur la thérapeutique et la perception de la maladie mentale. Touchés par le mauvais traitement des internés, par les logiques totalitaires des asiles, mais aussi animés par la recherche d'une approche nouvelle de la folie, les antipsychiatres de la deuxième moitié du XXe siècle ont, grâce à leur position professionnelle, ils exerçaient pour beaucoup en tant que psychiatres ou psychanalystes, et leur exposition, eu les moyens de mettre en œuvre et d'expérimenter leur vision. Cette antipsychiatrie doit aussi son succès à une conjoncture culturelle favorable, avec une remise en cause du modèle capitaliste, de l'autorité et des effets de hiérarchie, ainsi qu'à des ouvrages fondateurs qui ont forgé un socle intellectuel commun. Parmi eux, « Asile » d'Erwin Goffman, « Histoire de la folie à l'âge classique » de Michel Foucault, ou « Plus globalement, la philosophie existentialiste de Jean-Paul Sartre, aidée par une psychiatrie souvent sur la défensive et embourbée dans ses paradoxes, le mouvement contestataire a pu se développer dans une série de pays et obtenir un poids inédit. Cependant, cette expérience n'a pas réussi à s'inscrire dans la durée. Au bout de quelques années, avec la retraite ou le décès de ses initiateurs contemporains, l'antipsychiatrie a reculé pour, au final, laisser le champ libre à une psychiatrie toilettée. Cette issue n'a, en revanche, pas éteint les nombreux questionnements. Le rôle du psychiatre, le sens des thérapies prodiguées, le fonctionnement des hôpitaux psychiatriques, le fondement de la maladie mentale ou encore l'idée de diagnostic sont autant de problématiques actuelles qui suscitent prise de position et échanges entre les acteurs de la santé mentale. Le psychiatre Saïd Chebili parle d'ailleurs de « période de malaise pour la psychiatrie qui peine à s'accorder sur un modèle ». Saïd Chebili, Foucault et l'antipsychiatrie, l'information psychiatrique 2016. Dans ce contexte, les saillies critiques connaissent un certain regain d'intérêt. Il est donc plus que jamais intéressant de retracer le chemin parcouru par l'antipsychiatrie des années 60 depuis son déclin. Non seulement car, plusieurs décennies après son éviction du champ théorique et politique, la question de son héritage et de son influence est posée, mais aussi car elle contribue aujourd'hui, directement ou indirectement, à formuler et alimenter de nouvelles oppositions. Certes, aujourd'hui, il n'existe plus vraiment d'antipsychiatrie à proprement parler, en tout cas, plus en tant que mouvement constitué en soi. Mais elle subsiste malgré tout de manière diffuse dans des pratiques, des discours et des logiques qui, sans être les héritières d'une pure philosophie antipsychiatrique, revendiquent parfois à demi-mot une filiation. Mais avant de poursuivre plus loin, écrit l'auteur, j'aimerais profiter de cette introduction pour évacuer une question légitime. Pourquoi concentrer la problématique sur une période précise, les années 60 ? La réponse est simple. L'antipsychiatrie est un mouvement très large au point qu'il faudrait, comme Jacques Hockmann le fait, parler d'antipsychiatrie au pluriel. Les différences de point de vue entre les auteurs ou les divergences conceptuelles accumulées au fil des décennies rendent périlleuse toute forme de synthétisation. Il convient donc de faire un choix pour traiter efficacement la question. En outre, les années 60 représentent une période particulière pour l'antipsychiatrie où le combat et le terreau intellectuel ont peut-être été plus homogènes et consistants, permettant d'en apprécier plus facilement la portée. Ainsi, j'espère que la focale utilisée ici sera de nature à éclaircir de façon concise et organisée les liens entre une partie importante des logiques déployées par l'antipsychiatrie et la situation actuelle dans les cercles de réflexion et de conception du soin mental. Cette parenthèse terminée, nous pouvons poser la problématique : que reste-t-il de cette antipsychiatrie ? Pour y répondre, quatre axes seront développés. Alors bon, je passe directement à... Oui, voilà. Les contours flous de l'antipsychiatrie des années 60. L'antipsychiatrie a toujours été une nébuleuse, un courant protéiforme difficile à saisir. Il en est de même pour celle qui s'est construite sous l'égide de David Cooper et de Ronald Lang. Par quoi se définit-elle ? Qui est antipsychiatre ? Qu'est-ce qu'une réflexion antipsychiatrique ? Ces questions, sans réponse tranchée, sont pourtant nécessaires pour clarifier le point de départ de l'analyse. Dans cette optique, trois points seront ici abordés. L'anti-aliénisme comme racine, l'antipsychiatrie comme contre-antimodèle et les limites de l'étiquette antipsychiatrie. Une critique radicale prenant racine dans l'anti-aliénisme. Comme évoqué en introduction, les origines de l'antipsychiatrie remontent au XIXe siècle, au moment où l'aliénisme se constituait progressivement comme spécialité médicale ayant pour objet l'analyse et le traitement de la folie. Alors que les fous étaient bien souvent parqués dans des endroits insalubres avec le reste des parias ou abandonnés à leur sort dans la rue, l'aliénisme a cherché à les prendre en charge, à les soigner et à les réhabiliter. Cependant, cette nouvelle médecine, pour forger sa légitimité, a tenté de construire sa scientificité, sa méthodologie et donc son pouvoir autour de concepts et de pratiques qui n'ont pas tardé à trouver des oppositions. Ces oppositions, venant de juristes, de médecins, d'aliénistes en désaccord ou de psychiatrisés, dénoncèrent le fondement de certaines maladies telles que la monomanie, remirent en cause la pertinence de l'approche anatomique et neurologique, ou plus simplement luttèrent contre un système asilaire à bien des égards totalitaire et normalisant. Des enquêtes journalistiques comme celle d'Albert Londres ont également permis de médiatiser ces problématiques et d'amplifier les critiques à l'égard des aliénistes. En parallèle, certains médecins développèrent des alternatives. Dans son histoire des antipsychiatries, Jacques Hockmann cite par exemple les efforts de Léopold Louis Turc pour développer des communautés réduites à destination des aliénés. Ou encore dans le modèle de l'asile-village développé par le médecin Marandon de Montiel. Alors voir donc référence les antipsychiatries, une histoire, Jacques Hockmann, édition Odile Jacob. Évoquer Brièvement, cet anti-aliénisme suffit ainsi à comprendre que beaucoup de logiques, de visions et de combats qui ont eu lieu au cours des années 60 découlent en fait des discours et des actions des décennies précédentes. Bien entendu, certaines de des approches antipsychiatriques du 19e siècle se heurteraient sur plusieurs points à celles venant d'auteurs du 20e. Par exemple, Léopold Louis Turc considérait qu'il était du devoir des familles de prendre en charge leurs aliénés et que le placement en communauté ne pouvait pas être un recours systématique. On sait que ce point de vue aurait du mal à être partagé par David Cooper et la méfiance qu'il entretenait à l'égard des familles qu'il accusait de normaliser et de comprimer les individus. Malgré cela, l'antipsychiatrie telle qu'elle s'est engagée au milieu du XXe siècle puise sa vision, ses principes fondateurs dans cette critique de l'asile et de la légitimité du médecin à traiter ou même approcher la folie. C'est sur cette base irréductible qu'elle s'est construite, à partir de laquelle elle a développé ses théories et expériences singulières. Mais précisément, parler de théorie et d'expérience amène à se demander s'il existe un modèle dans cette antipsychiatrie. Contre-modèle ou anti-modèle ? Avec l'aide de la sociologie, de la philosophie, de l'histoire, mais aussi avec le soutien de leur formation psychiatrique et psychanalytique, les antipsychiatres ont mobilisé dans les années 60 tout un panel de disciplines pour penser et théoriser l'approche de la folie. Pour autant, il est difficile de dire si, au fond, ils ont cherché à proposer un contre-modèle capable de supplanter celui de la psychiatrie ou si, au contraire, ils ont abouti à un anti-modèle à force de combattre la domination du savoir médical et l'emprise des structures de soins. En fait, cela va dépendre du point de vue adopté par l'antipsychiatre. Certains d'entre eux, comme Thomas Sass, voulaient avant tout mettre fin à l'hospitalisation forcée au diagnostic médical. Dans leur logique, puisque la maladie mentale est un mythe, toute forme de traitement psychiatrique, de modélisation du soin mental, représente un artifice. En ce sens, sans pour autant nier certaines souffrances, ils ne se projetèrent pas dans la construction d'une nouvelle conception de la thérapeutique. D'autres antipsychiatres, en revanche, ont tenté de proposer un contre-modèle. C'est le cas, par exemple, de David Cooper. Dans son livre « Psychiatrie et antipsychiatrie », il détaille dans un premier temps ses considérations théoriques, en s'en prenant notamment aux contradictions de la psychiatrie. Pointant du doigt la violence de l'asile, la nosographie établie ou encore la déshumanisation du patient dans sa relation avec les soignants, Cooper pose les bases conceptuelles de son approche. Puis, dans un second temps, il met en avant son travail pratique, l'étude d'une famille qui lui permet, entre autres, de développer sa critique à l'encontre de cette instance qu'il considère comme potentiellement destructrice pour l'individu. Et moi, je ajouterais une autre parenthèse à cette parenthèse, c'est que, non, ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Et on a vu aussi en réfléchissant dans certaines émissions que la famille est aussi le réceptacle de plein d'influences qui sont aussi des injonctions au niveau on va dire national et que donc la famille n'est pas le mal absolu. Voilà. Je referme la parenthèse et je poursuis. Mais surtout, son expérience antipsychiatrique à David Cooper, au pavillon 21, une petite unité de soins d'un hôpital psychiatrique londonien. Démontrant le bénéfice de son système, il supprime les relations hiérarchiques, arrête les travaux obligatoires et abrutissants, redonne la parole aux patients avec la tenue de réunions régulières et leur laisse la possibilité d'organiser eux-mêmes leurs activités journalières. Il relate également les limites inhérentes à l'hôpital et évoque le modèle du lieu de vie comme alternative. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, Lauren Mosher s'isole de plus en plus de ses collègues psychiatres et crée justement une communauté destinée aux individus traversant des crises difficiles. Son lieu de vie fonctionne selon un schéma articulé autour de l'absence de médicaments, avec une présence quotidienne d'un personnel composé notamment d'anciens psychiatrisés. Cette expérience sera d'ailleurs importée par la suite, en quelque sorte labellisée. Ces exemples permettent d'illustrer la volonté d'une partie du milieu à construire un véritable contre-modèle alimenté par ses propres valeurs et logiques. Outre Cooper et Mosher, des auteurs comme Ronald Lang ou en France Maud Manoni ont aussi bâti et affiné leur thérapie alternative. Cependant, on peut observer chez certains antipsychiatres une forme de basculement à un certain point de leur vie. C'est le cas des deux tenants de l'antipsychiatrie britannique. Alors que Ronald Lang prend le temps de construire au début des années 60 sa vision de la phénoménologie existentielle, il amorce dès 1967 avec la politique de l'expérience. Un virage. Si on y retrouve les thématiques et les réflexions classiques de l'antipsychiatrie, on décèle également un discours plus global sur la société, l'aliénation teintée de romantisme. La deuxième partie de son livre se penche également sur l'expérience schizophrénique en elle-même, puis sur ce qu'il appelle l'expérience transcendantale. Il pose la question: l'expérience psychotique va au-delà des horizons de notre sens commun, c'est-à-dire du sens qui nous est commun. Dans quelle région conduit-elle? En réponse à cette interrogation, il développe une réflexion empreinte de mysticisme, de sacré, qui tend à brouiller cette volonté initiale de proposer un modèle solide, concret et méthodique. Dans les antipsychiatries, une histoire, Jacques Hockman rapporte un Donald Lang, à partir des années 70, s'intéressant au bouddhisme, démissionnant de la présidence de la Philadelphia Association et délaissant la psychiatrie au profit de la promotion de thérapies plus, pour le moins alternatives. Alors, les références... Une association, donc... Philadelphia Association, une association qu'il avait créée avec le soutien d'autres confrères afin de prendre en charge les individus souffrant de schizophrénie. Voilà, alors je poursuis ce texte intitulé « Que reste-t-il de l'antipsychiatrie des années 60 ?» Quant à David Cooper, on observe une évolution avec la publication de son essai « Mort de la famille » en 1971. Abandonnant les démonstrations cadrées de psychiatrie et antipsychiatrie, il développe une critique acerbe de la famille et de la société capitaliste occidentale dans un discours révolutionnaire au ton souvent cru, parfois difficile à saisir. Dans une forme de négation du discours et des logiques scientifiques, dans une volonté de lutter plus directement sur le plan politique, d'échapper au carcan balisé du langage, ces antipsychiatres ont d'une certaine façon fini par tourner le dos au processus de modélisation théorique dans lequel ils s'étaient au départ engagés. Sans le renier, ils s'en sont pour une part d'entre eux détachés. Contre-modèle ou anti-modèle, il n'y a donc pas de réponse nette à donner. S'il est possible d'affirmer qu'une bonne partie des antipsychiatres ont tenté d'organiser une autre approche de la folie et une autre thérapeutique, on ne peut oublier que le rejet d'inspiration révolutionnaire, libertaire, surréaliste, des institutions et des logiques traditionnellement reconnues, a également façonné une partie du mouvement. Derrière cette question, David Cooper, unique antipsychiatre, cette question un brin outrancière, se cache en fait une interrogation légitime. Qui et surtout quel type de réflexion peut-on qualifier d'antipsychiatrique? En 1967, avec la publication de Psychiatrie et Antipsychiatrie, David Cooper consacre le terme qui ne figurait jusqu'à présent dans aucun vocabulaire, ni celui des psychiatres, ni celui des contestataires. Autour de ce mot, antipsychiatrie, il crée une division franche, expose la séparation de deux camps en opposition. Pourtant, le terme d'antipsychiatrie n'a pas été embrassé par tous ceux qui étaient sensibles au mouvement et à ses causes. Franco Basaglia, psychiatre italien, s'inscrivant dans une critique forte de l'institution asilaire, refusa de porter l'étiquette. En France, Michel Foucault refusa également le qualificatif, bien qu'il gardât jusqu'à la fin de sa vie une forme de sympathie pour les thèses et les actions du mouvement. Si l'on s'en tient à cela, on pourrait déduire que l'antipsychiatrie dans les années 60 a été un mouvement confiné avec peu de partisans. Mais voir les choses ainsi, c'est manquer le fait que l'antipsychiatrie s'est nourrie de réflexions diverses et variées, qu'elle s'est structurée sur une pluralité de fronts et d'actions qui doivent être prises en compte lorsqu'il s'agit d'opérer une rétrospective. Ainsi, au-delà de cette composante anti, qui peut s'avérer être une étiquette réductrice, c'est avant tout une critique générale de l'institution psychiatrique en place qui a caractérisé une opposition sans concession. Les attaques pouvaient être dépareillées, désynchronisées. Elles pouvaient tantôt dénoncer l'utilisation de médicaments, tantôt chercher à abattre les murs de l'asile, ou encore faire du fou l'opprimé qui renverserait l'ordre bourgeois imposé. Elles étaient malgré tout liées par cette volonté de transformer le rapport à la folie et par cet idéal d'horizontalité. Alors, sur l'horizontalité, il y a une note, horizontalité qui pouvait se traduire de plusieurs manières par ailleurs. Thomas Sasse prônait un rapport purement contractuel entre le patient et le psychiatre. David Cooper envisageait la chose comme une communauté d'ego à UX, un travail collectif et intersubjectif. Mais on pourrait élargir la philosophie antipsychiatrique à une critique plus globale encore qui dépasse l'institution asilaire. Les charges de David Cooper contre la famille ou les études de Michel Foucault sur le pouvoir psy dans la société, sur les formes de surveillance et de contrôle générées par les institutions, ont à la fois forgé la culture antipsychiatrique et contribué au développement d'une vision singulière de la société. En adoptant cet angle-là, on peut ainsi dire que l'antipsychiatrie des années 60 est moins une doctrine qu'un réceptacle de positions alternatives critiques englobant tout un dégradé de pensée et de mode d'action. La limite que l'on pourrait cependant poser est celle qui sépare l'antipsychiatrie des expériences de psychothérapie institutionnelle et de psychiatrie communautaire. Ces courants qui ont tenté de répondre aux critiques sur la discipline ont certes cherché à modifier l'asile, à réviser la relation du médecin et de son patient, mais ne partageaient pas la substance révolutionnaire qui caractérisait le paradigme antipsychiatrique. Dans son ouvrage, Jacques Hockmann relève à ce titre que Maud Manoni reprochait à la psychothérapie institutionnelle de rester sous direction médicale, de ne pas aller assez loin dans sa remise en cause de l'asile, et de poursuivre un objectif d'adaptation à une néo-société close où le patient se sent bien, mais qui ne met pas un terme à son aliénation. Voilà, c'est encore tiré de Les Antipsychiatries, une histoire de Jacques Hockmann. Pour autant, les courants de psychiatrie critique ne sont pas restés hermétiques aux expériences antipsychiatriques de l'époque. Nous verrons plus loin la nature des ponts qui ont pu exister entre eux. Dans les années 60, l'antipsychiatrie a donc été philosophique, politique, militante. Elle s'est développée à partir des postulats anti-aliénistes, tout en mobilisant ses propres références et concepts. Elle a construit ses propres modèles tout en revendiquant une forme d'insaisissabilité, voire un droit au chaos. Aujourd'hui, l'héritage qui a le mieux traversé le temps est sûrement celui lié à sa philosophie et ses pratiques. Ces deux aspects restent contemporains. L'édifice philosophique et pratique de l'antipsychiatrie à l'état de subsistance. L'antipsychiatrie a marqué son époque. Ses réflexions et ses expérimentations ont été observées de près comme de loin par une grande partie des professionnels de la santé mentale. Certains d'entre eux y ont vu une ébauche de nouveauté, une source d'inspiration. D'autres, en acceptant l'homogénéisation de la psychiatrie et son évolution sans regard critique véritable, permettent un retour progressif des débats d'alors. La présence éparse de la philosophie antipsychiatrique entre prolongement intellectuel et retour à l'actualité. Dans les années 60, Ling et Cooper développaient une philosophie inspirée de l'existentialisme sartrien. Le premier mis l'accent sur la notion d'expérience au sens d'éprouver, ressentir et l'étude des interactions entre ces expériences comme principe de base d'une approche phénoménologique de la folie. Le second décrivait la réalité humaine comme un phénomène de totalisation réciproque et permanent, nécessitant le recours à une rationalité dialectique, à même de comprendre les relations d'intériorité entre les individus. Autrement dit, une approche également phénoménologique. De son côté, Foucault développa une critique de l'asile et affina sa notion de pouvoir qu'il ne limitait pas à une simple coercition ou moyen répressif, mais qu'il voyait plutôt comme un réseau productif qui passe à travers tout le corps social. Ces recherches, notions et approches ont marqué leur époque et ont su trouver au-delà une traduction dans la manière de concevoir le soin mental. Déjà, la violente charge contre les errements institutionnels de la psychiatrie a favorisé un sursaut de cette dernière avec le développement d'un mouvement critique. Il faut cependant, comme évoqué plus en amont de cet article, noter qu'il serait assez maladroit de parler d'un véritable prolongement entre l'antipsychiatrie et la psychiatrie critique qui a émergé en parallèle, chacun des courants ayant sa propre genèse et ses propres inspirations dans la manière de concevoir la folie ou et le soin mental. Malgré tout, les liens entre la psychiatrie communautaire et l'antipsychiatrie sont présents et ont paru, sur certains aspects, être suffisamment solides pour notamment partager cette approche socialisatrice et phénoménologique de la thérapie. Pour parler de prolongement sans équivoque, il faut cependant se tourner vers des figures plus radicales qui revendiquent explicitement un attachement à l'antipsychiatrie. C'est le cas, par exemple, du psychanalyste et philosophe franco-argentin Miguel Benas Ayag. Né en 1953 en Argentine, il entreprend des études de médecine et s'engage parallèlement dans la résistance guévariste. Plusieurs fois arrêté puis emprisonné pendant quelques années, il arrive malgré tout à obtenir un poste de professeur à la faculté de médecine de Buenos Aires et soutient une thèse en sciences humaines cliniques à l'université de Paris 7 en 1987. Choqué par certaines pratiques dans les hôpitaux, inspiré par sa mouvance libertaire, Benas Ayag s'opposa à la solution de l'asile. Pour lui, la société occidentale a cherché à éradiquer toute forme de négativité et de fragilité. L'hôpital psychiatrique permit d'arriver à ce résultat en cachant et concentrant dans un lieu reclus les individus en difficulté. Il a donc, à l'inverse, tenté de réincorporer le fou dans la société, de réintroduire cette part de fragilité pour qu'elle soit partagée et pour mettre à mal l'idée d'une dichotomie pure entre folie et santé. Également, Benas Ayag s'efforce de contextualiser la folie dans un tout qui comprend à la fois la psyché de l'individu, mais aussi la réalité matérielle, politique de l'environnement. Pour lui, la société néolibérale procède systémiquement à construire des individus coupés de leur capacité relationnelle dans un phénomène de solitude ontologique qui va jusqu'à créer un puissant vide existentiel. Parallèlement, ce néolibéralisme exige de plus en plus de l'individu une performance au travail où il devient à la fois une ressource et un acteur responsabilisé, mais aussi jusque dans son état de santé, où la moindre différence peut être pathologisée et médicamentée. Cette brève et partielle présentation de la philosophie et des logiques déployées par ce psychanalyste permet de constater avec néanmoins beaucoup de clarté le lien avec l'antipsychiatrie. Contestation de l'ordre capitaliste et de ses effets, contestation de l'institution psychiatrique, inspiration foucauldienne dans la façon d'appréhender le pouvoir. Il y a donc ici une filiation évidente, bien que Benas Ayag ne revendique pas l'étiquette d'antipsychiatre, celle-ci n'ayant plus grand sens aujourd'hui. Mais ce prolongement intellectuel quasi direct reste rare. La plupart des psychiatres et des psychanalystes s'accordent sur un rôle plus classique de leur profession, mettant de côté les problématiques politiques et sociales, sûrement dans un souci de neutralité axiologique. Dans cette configuration, les professionnels de la santé affiliés aux conceptions antipsychiatriques sont donc pour le moins minoritaires. Cela ne veut pour autant pas signifier que celles-ci ont été confinées au cercle restreint d'une poignée de professionnels. En effet, les conceptions antipsychiatriques. L'homogénéisation de la psychiatrie, qui prend parfois une figure athéorique discutable, ne résout pas toutes les contradictions de la discipline et contribue même à remobiliser des discours critiques. Aujourd'hui, de nombreux psychiatres prennent par exemple des distances avec l'utilisation du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM. Cet ouvrage, ponctuellement mis à jour avec la publication de nouvelles versions dont la dernière date de 2013, est proposé par l'Association américaine de psychologie, APA, répertorie et classe les différents troubles mentaux. Si une telle démarche peut paraître naturelle et intrinsèque aux objectifs étiologiques et nosographiques de la psychiatrie, celle-ci est pourtant de plus en plus décriée du fait notamment du nombre de troubles recensés, près de 400 contre moins d'une centaine pour la première version publiée en 1952. Cela conduit ainsi certains professionnels à une forme de prudence. Une inflation du nombre de pathologies peut conduire à une surmédicamentation, à une médicalisation des états induits par la vie courante, ou à pratiquer une psychiatrie du moindre effort, où la discussion avec le patient est remplacée par l'application des grilles de lecture objectivées fournies par le DSM. C'est donc en partie dans une conception antipsychiatrique de la maladie mentale que semblent puiser les différentes contestations de cette politique psychiatrique. Au fond, c'est à la fois la méfiance envers la construction d'un idéal de santé inatteignable et dangereux qui infirme toute déviance et contre l'extension sans précédent du pouvoir médical qui se voit confier la résorption d'un nombre grandissant de comportements que s'organise aujourd'hui une opposition intellectuelle parmi les professionnels mais aussi les psychiatrisés. Cette réponse, bien loin d'épouser tous les contours de l'antipsychiatrie, s'inscrit malgré tout dans quelques-unes de ces logiques telles que déployées au cours des années 60. Enfin, parallèlement, on constate que l'antipsychiatrie est un sujet qui continue à alimenter les recherches universitaires. Pris comme objet d'études historiques et philosophiques, le mouvement est au centre de l'attention d'un certain nombre d'articles. Dans la décennie de 2010, on peut par exemple citer la série d'interviews menées par Suzanne Parisot et Marion Sicard, les articles plutôt à charge, comme celui publié en 2017 par Jean-Louis Face, ou encore ceux s'intéressant au point de vue foucauldien et à ses liens ambigus avec l'antipsychiatrie. Également, l'ouvrage récent de Jacques Hockmann, et cité ici à plusieurs reprises, contribue à donner un écho particulier à un mouvement qui n'a pourtant pas su perdurer avec la même intensité. Ces discussions, qu'elles prennent la forme de rétrospectives ou de débats théoriques et pratiques, témoignent en fin de compte d'une certaine vivacité du discours antipsychiatrique, de sa légitimité en tant qu'objet historique, mais aussi contemporain, de la portée de ses énoncés en matière d'approche de la maladie mentale. Même si l'antipsychiatrie n'est pas parvenue à s'inscrire comme théorie et modèle au fil des décennies, elle a malgré tout réussi à influencer certains professionnels et à se constituer comme une réserve d'outils et de notions toujours promptes à ressurgir lorsqu'il s'agit de construire une critique du fonctionnement de la psychiatrie. Mais l'antipsychiatrie n'a pas seulement influencé, directement ou à la marge, la philosophie médicale. Plus qu'une réflexion, le mouvement s'est aussi caractérisé par la mise en pratique, l'expérimentation. Cet aspect a peut-être joué un rôle tout aussi important. Les expériences pratiques des antipsychiatres, une source d'inspiration. Grâce à leur statut de psychiatre ou de psychanalyste, les antipsychiatres des années 60 ont très vite eu la possibilité de mettre en œuvre leurs pensées. En Italie, Franco Basaglia accepte dès 1961 un poste de directeur à l'hôpital de Gorizia, marquant le début d'un fonctionnement nouveau. En Angleterre, David Cooper réussit à mener, à partir de janvier 1962, l'expérience du pavillon 21 au sein d'un hôpital londonien. Quelques années plus tard, en 1965, c'est le centre de Kingsley Hall qui ouvre ses portes. Ces différentes expériences ont bien sûr intéressé un certain nombre de psychiatres, en particulier ceux qui, sans être acquis au mouvement antipsychiatrique, cherchaient à développer des méthodes alternatives. Cette influence s'illustre par exemple chez deux d'entre eux, le Suisse Luc Ciompi et le Français Marcel Sassolas. Luc Ciompi, praticien, professeur et chercheur sur la psychopathologie des schizophrénies, voit émerger dans les années 60 cette critique radicale de l'asile sociologique avec Goffman, puis psychiatrique et militante avec l'apparition de communautés thérapeutiques. Développant lui-même une approche qualifiable de sociopsychiatrie, il rencontre en parallèle Loren Mosher, psychiatre américain, pétri par la phénoménologie existentialiste et par une certaine aversion de l'asile. Ce dernier, répondant à l'émulation créée par l'émergence des communautés thérapeutiques, fonde en 1971 une structure de soins alternative qu'il baptise Soteria. Intéressé, Luc Ciompi s'y rend et découvre un lieu de vie accueillant une dizaine de personnes, pourvu d'un personnel comprenant d'anciens psychiatrisés et évitant l'utilisation des médicaments. Inspiré par cette expérience et ayant l'opportunité de construire sa propre alternative en Suisse, Luc Ciompi utilise Soteria comme modèle et finit par mettre sur pied un lieu de vie auquel il attribue le même nom. Marcel Sassolas est quant à lui un psychiatre qui a, comme Luc Ciompi, été influencé par l'idée d'alternative à l'hôpital, par les écrits de Lang, de Cooper, tout en gardant une distance critique vis-à-vis de l'antipsychiatrie. Il s'est néanmoins rendu dans des communautés thérapeutiques londoniennes, comme celle pilotée par la Harbors Association. Il y a pu constater le rôle important que jouaient les étudiants dans les lieux de vie et s'est inspiré de certains points de fonctionnement pour les reproduire dans le foyer qu'il a mis sur pied en France. C'est ainsi qu'à son retour, il passa un accord avec l'Université de Lyon pour permettre à des étudiants de venir dans son foyer en tant que stagiaires pour valider leur cursus. Le propre de ces structures inspirées des expériences antipsychiatriques, c'est qu'elles ont su s'inscrire dans le temps et devenir pérennes. Aujourd'hui, le Soteria de Luc Ciompi fonctionne toujours comme le foyer de Sassolas, qui continue à accueillir des étudiants de M1 et de M2. Dans leur structure même, moins hiérarchisée qu'un hôpital psychiatrique traditionnel, dans leur approche thérapeutique qui mise sur la capacité des patients, sur leur autonomie et dans leur utilisation parcimonieuse et réfléchie du médicament, se projettent ces expérimentations antipsychiatriques de l'époque. En effet, même si les antipsychiatres ne convainquaient pas nécessairement sur le plan intellectuel, Marcel Sassolas parle par exemple d'idées extrêmement simples, leurs initiatives pratiques ont permis à une partie de la profession de se faire une idée de ce qu'il était possible de faire, de ce qui pouvait fonctionner d'un point de vue thérapeutique, à un moment où le besoin de structures alternatives se faisait sentir. Aujourd'hui, les lieux de vie restants se font encore l'écho d'une façon bien particulière de concevoir le rapport avec le patient, d'une certaine conception de la folie, dans laquelle l'individu est partie prenante du processus thérapeutique, processus peut-être moins médical que social et existentiel. L'idée de redonner la parole au patient, de le socialiser tout en lui laissant une part d'autonomie, un pouvoir de décision, reflète inévitablement ce qu'ont pu expérimenter à une autre époque et de façon plus ou moins proche les antipsychiatres. Cependant, ce prolongement pratique doit aussi être nuancé. Car paradoxalement, si ces communautés thérapeutiques ont pu survivre, c'est grâce à une collaboration avec les autres services psychiatriques, ce que n'ont pas fait les antipsychiatres. De ce rapprochement est née une forme d'institutionnalisation, une mise en conformité d'une certaine partie du fonctionnement et de la viabilité économique du lieu de vie. D'autre part, ces communautés thérapeutiques n'ont pas une unique filiation antipsychiatrique. Elles ont aussi été inspirées par la psychiatrie communautaire, la psychothérapie institutionnelle, qui sont, comme on l'a vu, des courants qui n'étaient pas en rupture avec la discipline. Enfin, il faut noter que ces communautés font figure d'exception dans le paysage du soin mental. Même si l'hospitalocentrisme n'est plus aussi proéminent qu'avant, avec par exemple en France le développement des sorties d'essai, la mise en place des groupes d'entraide mutuelle ou encore les possibilités de soins ambulatoires, il reste une norme, une institution incontournable, parfois au détriment des usagers qui continuent de subir les atteintes aux libertés, ainsi que des thérapies inadaptées aux soins psychiques. Donc, atteinte aux libertés, voire sur cette question, le rapport d'activité 2016 du contrôleur général des lieux de privation de liberté, et thérapie inadaptée, voire Marion Sicard, Suzanne Parizeau, Antipsychiatrie au pluriel, numéro 8, interview de Marcel Sassolas, l'information psychiatrique 2014. C'est pour ces raisons qu'il convient de parler d'inspiration antipsychiatrique et non de legs ou de prolongement direct. Néanmoins, certaines expériences ont abouti à bien plus que la création d'une série de nouveaux lieux de vie. C'est le cas en Italie où Franco Basaglia et ses collègues ont réussi à donner au mouvement une portée nationale et législative inespérée avec l'adoption de la fameuse loi 180 sur la santé mentale le 13 mai 1978. Cette issue, les Italiens la doivent à un contexte bien particulier, celui d'une crise sociale et institutionnelle redoutable dans le courant des années 68. Alors que la gronde populaire s'éveillait, le mouvement anti-institutionnel, luttant contre l'asile, s'est trouvé être, comme le notent Mario Colucci et Pierangelo Di Vittorio, le propulseur d'une demande plus générale de changement qui s'est manifestée à différents niveaux de la société. Rattachant la question psychiatrique à celle de la lutte des classes, évoluant en synergie avec d'autres forces politiques et sociales, le courant anti-institutionnel s'est largement diffusé et renforcé. Chose qui, comme le remarquait Basaglia, n'a pas été possible en France ou en Angleterre. C'est donc par le biais de ce contexte fertile que l'Italie mit un terme à l'asile. Si les débuts furent difficiles, il a fallu une vingtaine d'années pour fermer définitivement tous les hôpitaux psychiatriques et composer avec des résistances économiques et pratiques. Différentes alternatives ont aujourd'hui pris le relais, contribuant à faire de cette loi 180 une disposition effective et non une simple déclaration de bonnes intentions. Bien entendu, les héritiers du courant mené par Basaglia veillent aujourd'hui à consolider cet édifice singulier dans le paysage de la santé mentale, notamment en prenant garde à ce que les mauvaises habitudes de la psychiatrie dénoncées auparavant ne ressurgissent pas dans les nouvelles structures mises en place. Mais même si elle reste un combat quotidien et perpétuel, plus de 40 ans après le vote de la loi 180, cette antipsychiatrie apparaît nettement comme historiquement victorieuse. En ayant réussi à renverser juridiquement l'institution asilaire, à convaincre de son caractère nocif et inadéquat, c'est un changement de paradigme qui s'est produit, que seule elle portait. Il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur les effets de cette disposition, tant sur ses qualités que ses faiblesses, mais il reste que ce modèle unique, regardé avec beaucoup de curiosité par les autres pays, s'avère être un héritage pratique aussi incontournable qu'isolé de l'expérience antipsychiatrique des années 60. Cela dit, cette psychiatrie n'était pas que de nature pratique ou philosophique. Au-delà, on l'a vu, elle était également militante, engagée, politique, à une époque où l'effervescence intellectuelle était forte, où les conceptions marxistes et libertaires côtoyaient le capitalisme d'après-guerre et le libéralisme économique. Le mouvement s'est construit dans une opposition protéiforme où la critique de la psychiatrie s'est mêlée à une puissante contestation du modèle socio-économique dominant. Eh bien, voilà, ce sera la suite donc de ce travail universitaire anonyme que nous lirons la semaine, une semaine suivante, peut-être la semaine prochaine, peut-être une autre. Donc ce texte signé, eh bien, comme on le disait, donc anonyme, mais quand même il est ajouté qu'il est rédigé par Candem. Voilà. Et eh bien ainsi eh bien on va faire encore quelques, on va rappeler l'annonce donc surtout celle qui nous intéresse ici, c'est la Mad Pride, et puis une annonce aussi à Publico. Il va se passer quelque chose. Il se passe plein de choses à Publico. Effectivement, la librairie du Monde Libertaire est le lieu de plein d'événements tout aussi intéressants les uns que les autres. Et bien ici, et donc ici, l'annonce est la suivante. Il y aura une projection discussion. La ferme des animaux, dimanche 16h, le 14 septembre 2025. La ferme des animaux, le film d'animation d'après l'œuvre de George Orwell. Donc il y aura cette projection-là. Et c'est un événement à l'initiative du groupe Libertaire d'Ivry. Donc ceci aura lieu, comme je le disais, à la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, Paris 11e, métro République, Oberkampf et Filles du Calvaire, dimanche 14 septembre à 16h. Et enfin, donc, la Mad Pride, pour une société humaine soutenable. Alors, je peux effectivement, je ne vais pas répéter toute la... De toute façon, on aura l'occasion d'ici au 11 octobre de répéter, de refaire cette annonce. Donc, simplement dire que c'est le 11 octobre et que, eh bien... Les revendications me semblent bien meilleures, en tout cas bien plus pertinentes que celles qui étaient faites il y a peut-être 10, 11 ans de ça. Qui est lors de la première Mad Pride qui avait lieu à Paris. Donc c'est la deuxième. Ici c'est la deuxième qui arrive et qui me semble plus revendicative. Alors le soin doivent être construits tout comme la société à partir de ce que nous sommes tous et toutes, et non nous insérer au forceps dans un système social et économique pathogène. Notre rôle n'est pas de tenter désespérément de se conformer à ce moule qui nous nie et nous détruit du fait de notre différence de fonctionnement, enfin de notre différence tout court, moi je dirais. Inventons un monde soutenable avec celles et ceux qui ne peuvent pas vivre autrement que dans un modèle de société où la part d'humanité et la spécificité de chacun peut s'exprimer. Parce que les violences psychiatriques et le tout médicament ne sont pas conciliables avec le respect des droits humains, abolition des traitements forcés, contention physique et chimique, privation de liberté, hospitalisation forcée, conformément, donc abolition des traitements forcés, conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU. Personne à la rue, logement garanti pour tous et toutes, personne sans ressources, il faut que les moyens de subsistance soient garantis pour tous et toutes, nous luttons, donc là vraiment on sent qu'il y a une voilà, il y a quand même une critique en profondeur, hein, nous luttons contre toute forme de discrimination et d'oppression, les violences sociales, donc vivre dans une société où ces dominations et discriminations sont fortes et psychologiquement nocifs. Nous ne devons pas chercher à nous adapter à n'importe quel degré de violence sociale, c'est le fonctionnement collectif que nous devons adapter aux besoins et à l'épanouissement de tous et toutes. Voilà, donc ça c'est un extrait du tract annonçant la Mad Pride qu'on peut... Donc, bon, là, il y a un site en construction. Apparemment, c'est www.mad-pride-2025.fr. Ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui. Et nous vous disons donc à la prochaine. Et bonne journée. Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, de la Fédération Anarchiste, et nous vous proposons la rediffusion de l'émission d'hier de Idéaux et Débats. Yeah.
mais tu sais marre dans les castes. Mon cerveau est fatigué, t'as l'envie pour nous de faire la vie. C'est triste, la vie serait moche. Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère.